C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Nidas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, on passe la frontière et on va voir chez nos amis belges si on y est. Sous la houlette du conteur Fahim Abbès, un nouveau festival est né et c'est l'occasion de rencontrer les artistes belges et de discuter avec les uns et les autres. En voiture pour Bruxelles, c'est Anne-Gaëlle Goduchot qui a pris le micro.
Fahim Abbès, bonjour.
Bonjour, bonjour Anne-Gaëlle.
Ça va bien ?
Très bien.
Alors là, on est dans un studio particulier. C'est un studio voiture.
Oui, c'est ça. On est dans un studio voiture sous la terre.
On est sous la terre et même, on est quand même dans un endroit particulier. On est carrément sous le palais de justice, là.
Tout à fait.
De Bruxelles.
De Bruxelles, oui. On est là.
Alors, on est là. On a terminé hier, on a fait le final hier du premier festival de contes Origine.
Festival de contes d'origine, festival de contes chez l'habitant.
Festival de contes chez l'habitant,
oui.
Que tu as créé de toutes pièces.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'imaginer et beaucoup de plaisir à le voir accoucher. Et voilà.
C'était la première édition.
Oui, toute la première édition.
Ouais, t'es content?
Je suis très content, vraiment très content, vraiment très content. Je suis content, pourquoi? Parce que les spectateurs, eh bien, ils ont vraiment apprécié. Il y en a beaucoup qui ont découvert les contes, il y en a qui ont entendu des histoires. Et donc, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a du bonheur dans les yeux des spectateurs.
Combien de conteurs tu avais invités?
15, je pense.
15 conteurs, ouais. tous avec leurs univers différents. Qui sont allés raconter donc chez l'habitant.
Oui, chez l'habitant. Donc il y a des personnes qui ont ouvert leur maison, leur jardin pour accueillir à chaque fois un conteur et une conteuse. Donc j'ai fait des duos conteur-conteuse. Mmh. Et puis ils ont invité leurs amis, puis ils ont invité leurs connaissances et puis ils ont accepté la visite de personnes qu'ils ne connaissaient pas.
Mmh. On s'est baladé quand même avec ce festival dans des endroits différents. Il y avait la région bruxelloise, mais aussi tu vas savoir mieux dire que moi.
La région wallonne, oui. On était en région wallonne, on était dans la région bruxelloise, tout à fait. Il y a aussi des balades comtées qui ont été faites l'après-midi.
Dans des endroits avec des noms très jolis.
Oui, la vallée du Vogelsangbeek, qui est en français la vallée du champ d'oiseaux, du ruisseau du champ d'oiseaux.
Ruisseau du champ d'oiseaux.
Oui.
On est allé dans la vallée du bout du monde.
Oui, chez Michel. La vallée du temps suspendu, la vallée du bout du monde.
Oh,
c'était bien. Et lui, à côté, ce qui est particulier, d'ailleurs chez lui, donc là, on a raconté dans sa petite cabane, il y a un GR qui descend, qui va jusqu'à l'abbaye en ruine de Villers-la-Ville. Mmh. C'est dans cette vallée-là.
Donc toi, tu es conteur.
Oui.
Tu es conteur depuis...
Depuis quelques temps déjà, oui. Alors moi, j'ai eu la chance d'être né dans une famille de conteurs et de conteuses. Donc de personnes qui connaissaient des histoires et qui les racontaient à ceux qui les entouraient, à leurs enfants, et dont je faisais partie. Et puis j'ai entendu ça de la bouche de ma mère, de mon père, de mon grand-père, mes oncles, des de contes, des devinettes, voilà.
Tu m'as dit, ma mère me racontait des histoires d'ogres, par exemple. Et donc, moi, je croyais aux ogres.
Oui, ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça, non. C'est-à-dire que c'est facile de raconter une histoire, un conte merveilleux, quand c'est une réalité pour toi.
Ah oui.
Et donc moi étant enfant, et je suis resté longtemps enfant, je pense, parce que moi j'ai cru même adulte que les que cet univers-là, ces contes où on dit les ogres existent dans les forêts, ou aux temps anciens les gens comprenaient le langage des animaux, et donc ça, il y avait un échange, donc ça fait partie de ma réalité intérieure, de ma réalité, de ma psyché en fait, de ce que je suis. Donc où ma mère me disait la terre est, chez nous la terre est posée sur la corne, la pointe de la corne d'un taureau, et régulièrement il passe de la pointe une vers la pointe deux, c'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre. Tu vois, et donc en fait c'est vraiment toute cette réalité, cette mythologie portée par les femmes kabyles qui étaient tout à fait présentes chez elles, parce qu'elles ont moins été influencées par les invasions successives qui ont influencé le monde extérieur kabyle. Ouais. Les femmes ont porté ça en elles et l'ont partagé. Et voilà.
Donc toi, tu as grandi là-dedans, dans cet univers.
Dans cet univers-là.
Sur la corne de... Sur la pointe de la corne d'un taureau.
Ouais, tout à fait, oui, oui. Ouais. Tout à fait. Et donc, je trouve que c'est une grande chance, parce que ça laisse encore une naïveté chez moi. Tu vois, une possibilité de croire en l'imaginaire. Voilà.
C'est ça que tu as eu envie de... Parce que tu n'as pas toujours été conteur. Tu as fait d'autres métiers.
Alors... J'ai pris du temps à m'avouer que je voulais être comédien. Donc j'ai eu 12 ans, je me suis dit tiens, je vais aller m'inscrire au cours de théâtre de l'école. Puis après j'ai dit non, je vais faire plaisir à mon papa, je vais faire plutôt m'inscrire au cours de mathématiques. Après quand j'ai eu 16 ans, il manquait un garçon dans l'école où j'étais pour aller faire un spectacle avec les filles. Et je suis allé. Et là, j'ai
aimé ça. Service.
Je vais rendre service. Et je peux rendre service, tout à fait. Je vais rendre service. Et tout le monde était très content, très gentil. Et donc, j'étais le seul garçon parmi ces filles à danser sur. Faire le spectacle de fin d'année, à 16 ans. Et là, j'ai suivi les cours de conservatoire de la localité où j'habitais, de diction, de déclamation, tout ça en Belgique, parce que je suis né en Belgique, j'ai grandi là.
Ouais.
Et puis après, je me suis dit, là, je veux être comédien. Et j'ai eu la chance de suivre. Une formation, l'école Jacques Lecoq, mais pas à Paris, auprès d'un des élèves de Jacques Lecoq et aussi, surtout, un des premiers élèves et quelqu'un qui était professeur chez lui.
D'accord.
Et qui a créé son école à Bruxelles. Et j'ai suivi des cours là. Et là, dans ce cours, à cette époque-là, il y avait un module qui s'appelait les conteurs mimeurs.
Ah oui, ouais. Conteurs mimeurs.
Conteurs mimeurs. Les conteurs mimeurs. Et donc, ça veut dire que ce module-là, tu apprenais à raconter une histoire et en même temps à faire la pantomime, pas le mime comme le fait le mime Marceau, ou le mime statuaire comme Decroux, Étienne Decroux, mais vraiment la pantomime. Tu dis, voilà, j'ouvre une porte, tu ouvres une porte, tu lèves la tête en haut, tu arrives à créer les nuages, tu lèves en bas, tu arrives à créer le gouffre, et tout ça. Et donc, j'étais très très bon là-dedans, raconter des histoires, ça a percuté en moi. J'ai dit, tiens, ça j'aime ça. Ça m'a plu. Et donc, j'ai commencé à raconter la première fois des histoires pour un public en 1987 devant la cour du Palais des Papes à Avignon.
Ah
ouais, ça remonte.
Ça remonte.
Tu vois. Et donc,
tu m'as dit que tu as été passé à un moment par le spectacle de rue aussi.
Ah oui, oui, mais voilà. Oui, c'est ça. J'ai fait ça. Et pendant 10 ans, j'ai eu un spectacle comique avec un chien.
Avec un chien ?
Avec un chien, oui, oui.
Un vrai chien ?
Un vrai chien, vrai vivant et tout, qui s'appelait Rosalie. Et le principe de base du spectacle était très simple. Je disais des conneries, elle les faisait. C'était ça.
Le chien faisait les conneries que tu disais.
Ce que je disais, tu vois. Et donc, elle était vraiment bien dressée, elle faisait vraiment ce que je lui demandais, mais j'ai jamais lui laissé 50% d'improvisation.
Ouais.
Donc, j'ai toujours eu cette faculté de pouvoir structurer mon travail, mais de laisser des portes ouvertes à ce qui pouvait se passer.
Très en rapport avec le travail du conteur, en réalité, pour finir, non ?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et tout en ayant ce spectacle-là de conte, je travaillais aussi avec d'autres spectacles où j'ai aussi travaillé. Ça avait toujours à voir avec des contes et des histoires, en fait, tout ce que j'ai fait. Donc, quand j'étais engagé pour la première fois comme comédien dans un spectacle, c'était en 1989, premier contrat professionnel.
Ouais.
Et là, c'était aussi à partir d'un conte. C'était à partir d'un conte, c'est une pièce de théâtre qui était écrite à partir d'un conte. Et donc, il y a toujours eu l'univers du conte, ce fil-là, oui. Des histoires. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait, on pouvait raconter des histoires et être payé pour ça. Que les montées de conteurs existaient, les conteuses aussi. Et je me suis dit, mais je les ai vues. la révélation. Ouais. Tu dis, ouais, mais ça, je peux le faire. Peut-être même un peu mieux. Ouais. Et peut-être. Allons tenter l'aventure. Ouais. Et voilà, et ça m'a plu, on m'a écouté et j'ai partagé ces histoires. En fait, je me suis rendu compte que voilà, j'avais une richesse en moi, qui était cette culture kabyle. Qui était de contes, faites de contes, d'histoires, de devinettes, de proverbes, et que je pouvais la partager avec chacun. Mmh. Et donc, c'est pour revenir à ça, c'est vraiment les origines du festival, c'est ça, c'est de dire, ben voilà, les contes, c'est l'oralité. J'ai eu la chance de les avoir découverts, entendus comme ça, et puis de les retrouver dans les livres. Mais avant d'arriver dans les livres, elles sont parties, elles étaient dans la mémoire, et elles le sont toujours, ma mère est toujours en vie, dans la mémoire des gens. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, je ne suis qu'un transmetteur d'histoire.
Mmh. Voilà. On parlait tout à l'heure en roulant, puisque on est dans ce studio voiture.
Oui.
Mais tout à l'heure, c'était la voiture roulait. Mmh. En roulant tout à l'heure, on parlait des histoires qu'on raconte et qui sont à la fois des divertissements, mais qui parlent aussi du monde tel qu'il est, et aussi de notre monde intérieur. Tu disais. Par exemple, que tu avais raconté un jour des histoires, et notamment dans le public, il y avait un garçon qui était qui avait été mis en, pas en prison, mais tu disais quoi,
en IPPJ, c'est en centre fermé pour jeunes.
En centre fermé pour jeunes, parce qu'il avait braqué son directeur, et tu disais, les histoires que je racontais, les contes merveilleux que je racontais, l'ont vraiment intéressé, parce qu'il y avait quelque chose. Redis-moi comment tu...
Alors il avait pointé son directeur avec un couteau. Donc ça veut dire que et là les conteurs et les conteuses qui ont travaillé avec des publics difficiles, ils savent très bien que voilà, c'est des enfants qui, tu rentres dans la pièce, ils savent tout de suite ils te scannent, boum, voilà, c'est comme ça. Ou tu respectes ou tu ne respectes pas.
Ouais.
Et donc déjà ça, j'avais un peu de vécu quand j'ai fait ça, et donc là ça s'est très bien passé au niveau du contact. Après j'ai raconté l'histoire, donc l'histoire de la bête à sept têtes, qui est un conte traditionnel kabyle, mais qui est, c'est l'histoire de Saint Georges, on peut dire,
oui, les mythes, on trouve
partout. Ou de Hercule, etc. Et donc voilà, je raconte cette histoire là et je me suis rendu compte en racontant cette histoire là que ça, c'était en phase avec lui, il écoutait, il rentrait dans l'univers, et en fait quelque part la force qu'il avait en lui, eh bien, lui, il était capable d'aller tuer cette bête à sept têtes. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et lui, il pouvait être le héros qui allait être la solution pour la nation, pour le village, pour la société. Mais en fait, cette énergie qu'il avait, elle n'était pas en phase avec l'endroit où il était né, avec la famille où il était né. Ou en tout cas, ça ne matchait pas. Et donc, en fait, tout d'un coup, je pense que là, il a compris ou il a ressenti, et ça l'a stabilisé de dire mais et après quelques années après je l'ai vu et il s'était beaucoup assagi, tu vois, et je sais pas si c'était la graine de l'histoire du conte, je m'amuse à penser que oui, qu'il avait fait un chemin en lui. Et donc les contes et les histoires, elles ont, on le sait, une certaine fonction importante dans la société.
Ouais,
et elles peuvent remettre les
justement
gens
en... justement ça fait partie des questions que je me pose, que j'ai l'habitude de poser aux conteurs ou aux gens qui s'intéressent. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait que dans un autre monde, là, tel qu'il est, moderne, avec des écrans, des réalités virtuelles et tout ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gens qui racontent des histoires et puis des gens que ça intéresse de venir en écouter?
Oui, moi je pense que, les histoires, donc on parle de la forme. Ici, on est dans une forme simple, et la forme la plus simple que j'ai pu vivre, moi, dans l'histoire. Je vais de nouveau revenir au côté familial. C'est ma maman qui, tous les matins, me racontait ses rêves. J'ai rêvé de ceci, de cela et de cela, et ça veut dire ça et ça et ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà un contact avec le monde intérieur. Et je pense que les histoires, elles nous parlent à l'intérieur. Alors, elles peuvent s'exprimer, comme nous le faisons, nous, conteurs et conteuses, à travers la parole. Elles peuvent prendre le chemin des livres, les succès d'Harry Potter et tout ça. Elles peuvent prendre ensuite le parcours de l'écran. Et voilà, donc, et surtout les grands cinéastes, ils disent tous, moi je raconte des histoires, je suis un conteur, mais en fait c'est ça, il raconte des histoires. Le médium qu'il a choisi, lui, c'est le cinéma. Mais nous, ce que nous faisons comme conteur et conteuse, on crée le cinéma dans la tête des gens. Et quand on dit, voilà, il y avait un monsieur qui marchait ou une dame qui faisait... Et alors, on le voit marcher et puis il passe ceci. Mmh. Et juste, on le raconte tout simplement. Et alors, le public, ou celui qui écoute ou celle qui écoute, crée ça en lui. Et surtout, quand on raconte des contes traditionnels, c'est qu'en fait, on dit traditionnel parce que... Mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis avant nous et qui existera après nous. Mmh. C'est éternel, c'est intemporel. Et nous ne faisons que passer. Et la grande richesse qu'on a, c'est de pouvoir d'être le porte-voix et de les partager. Mmh.
Mais cette simplicité-là, ça m'étonne toujours que ça intéresse encore, tu vois. Parce qu'on n'a pas beaucoup de... On est vraiment dans une forme très simple, il n'y a pas beaucoup d'artifices, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et ça m'étonne toujours qu'il y ait des gens qui se déplacent pour écouter des histoires.
D'accord. Mais tu vois, quand on fait les promenades comptées, par exemple, ouais. Je demande toujours, est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est la première fois? Et on a demandé ça hier, et il y en a oui. Et donc, ils écoutent ces histoires et ça les touche. Et donc, ils sont dans quelque chose qui les... Et puis, ils reviennent parce que ça les a... voilà, quelque part, c'est comme si tu avais arrosé une petite graine qui est en eux, en fait, c'est déjà là. Et on est simplement l'eau, le soleil qui va la faire grandir. Et puis après, quand tu as les contes aussi, hier on était à l'espace marionnette, c'est un espace où c'est plutôt la marionnette qui est là, et bien les personnes qui viennent pour la première fois, ils découvrent que, mais en fait j'aime les contes, mais en fait on fait rien de particulier. Si on fait quelque chose de particulier parce qu'on partage une histoire, mais on fait rien de particulier dans la mesure où c'est déjà présent chez les gens ou les personnes qui nous écoutent, et on ne fait que révéler ce qui est là et que le nourrir. Et c'est pour ça que c'est très facile, en fait, parce que le public, il n'y a jamais personne qui va venir écouter un conteur, une conteuse voir un spectacle en disant ce soir je vais bien m'emmerder et puis je vais la rentrer chez moi.
Sa mère lui racontait ses rêves au matin, sa grand-mère racontait des contes, et c'est comme ça que Fahem Abbès, a grandi sur la pointe de la corne d'un taureau. Dans un drôle de studio automobile, Angel interviewe le conteur Fahem Abbès.
Parle là d'une culture orale par rapport à... Voilà, on vit dans un monde où l'écrit est vraiment valorisé. Et quand on raconte une histoire, tout repose sur la voix, sur les mots et sur la relation qu'on entretient, toi, moi, l'univers autour de nous. Est-ce que tu penses que... tu vois, tu me parlais tout à l'heure de... ces premières histoires qui sont que, voilà, au petit déjeuner, t'entends ta maman qui raconte les rêves, et tu disais, y a une première chose qu'on peut dire, c'est que on n'est pas très en phase avec le monde moderne.
Oui, c'est ça. Donc quand tu as la chance de grandir dans une famille où la parole, l'art de la parole, les histoires sont racontées, et ces histoires anciennes qui sont racontées avec ces croyances au monde magique, au monde onirique et à cette réalité qui était les animaux, parler avec les hommes, les hommes parler avec les animaux, les ogres existent, ils existaient, les ogresses aussi, mais t'es pas très en phase avec le monde extérieur qui était occidental, tu vois. Surtout que ma maman était née dans les années 30, donc ça veut dire que elle avait connu sa grand-mère était née dans les années 1800, tu vois, ouais. Et donc ça veut dire c'est tout cet univers-là qui est présent, tu vois, et donc la parole est importante, et donc c'est c'est pas comme tu le dis, c'est pas une. Elle, ma mère était analphabète parce qu'elle n'écrivait pas, mais elle n'était pas analphabète. Elle possédait une culture, la culture orale, et la parole a de la valeur. C'est pas comme ici en Occident où la parole s'envole, les écrits restent. Non.
Non.
La parole.
Tu donnes ta parole.
Tu vas faire ce que tu as dit. Mmh. Attention, tu n'as pas de parole. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas une femme. Alors tais-toi. Mmh. Tais-toi. Et donc c'est pour ça que nous conteurs, conteuse, art de la parole, il faut savoir que ce qu'on dit a de la valeur et que les mots peuvent guérir, mais peuvent aussi blesser. Et donc, il y a tout ça qui existe, qui est une réalité. Donc, nous, on doit être conscient de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on raconte. Mais en plus, il y a différentes phases. Un jeune ou une jeune artiste conteuse ou conteur, c'est pas la même chose quand tu as plus de bouteilles et tu vois pas, tu vis pas les choses de la même façon. Et tu te rends pas vraiment compte de ça quand tu débutes, mais au fur et à mesure, tu réfléchis à ce que tu fais, tu te questionnes, et aussi tu te rends compte de ce que ça provoque chez l'autre, ça peut, eh bien, tu y accordes de l'importance. Donc, l'art de la parole, attention à la parole.
Et tu me disais, on peut même élargir ça. Tu me disais l'autre jour, on raconte dans une vallée, les gens qui sont là t'écoutent, mais la maison reçoit tes mots aussi, mais les arbres. Autour.
Oui, la terre, les plantes, ils sont là, ils t'entendent, ils vivent et ils écoutent et tu poses un acte en rassemblant des gens autour de toi dans une et tu racontes ces histoires-là. Donc tout ça, ça résonne, c'est présent.
Là, tu parles de magie, là.
Ah oui, bien sûr, c'est de la magie, mais que crois-tu venir entendre quand tu viens entendre des contes?
C'est ça.
c'est de la magie. Mmh. C'est ce qui fait la différence entre le conteur et. Alors voilà, là c'est à nouveau de la politique. On va couper les. Et les récits de vie, tu vois. Mmh. C'est encore autre chose, tu vois. Est-ce qu'un conteur doit raconter des contes traditionnels? Est-ce qu'il doit raconter des contes? Est-ce que les récits de vie, au fur et à mesure, ils vont pas devenir des contes? Mais en fait, c'est ça. Mmh. Ah oui, que crois-tu venir entendre? Vivre autre chose qu'un acte magique quand tu écoutes. Donc dire voilà, le conte pour moi c'est un acte magique. Et nous sommes des magiciennes et des magiciens d'ailleurs. C'est là qu'ils existent, c'est dans les contes.
Ouais.
Ailleurs tu trouveras les sorciers et les sorcières dans le monde réel. Ou peut-être dans le. Ouais. Tu vois. Je ne sais pas si ça résonne en toi ce que je dis.
En tout cas, oui, ça résonne et c'est vrai que ça vient aussi donner. Comme une raison de raconter. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de raconter des histoires? Qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie d'en écouter? C'est que probablement ça vient nourrir quelque chose chez nous qui a besoin de ça, de cette magie, et puis peut-être de se sentir relié au monde.
Mais les contes aussi sont c'est la médecine de l'âme. Tu vois, je raconte des histoires, j'ai choisi parfois exprès pour ça, parce que je sais très bien que ça parle d'une problématique et que chacun. Et donc, tu vois, la fille à la main coupée que j'ai racontée l'autre jour, ça parle d'une problématique. Je veux dire, un conte comme celui-là, eh bien, il parle de ce vraiment. Et il prépare l'adulte à ça. Par exemple, il y a aussi un conte que j'aime beaucoup qui est un conte qu'on racontait avant aux jeunes hommes qui voulaient se marier.
Mm-hmm.
Et donc, c'est un long conte. Il est très très long. Et ce conte-là, en fait, il raconte l'aventure d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme, qui veut l'amour fou, et puis après, il va rencontrer d'autres femmes, et puis il va vivre d'autres aventures, et puis finalement, il va rencontrer une femme. Et donc, en fait, c'est de dire attention, attention, c'est trop. Et ces contes-là, ils étaient racontés parce que. Et tu vas les écouter, tu vas dire mais c'est pas possible, c'est pas produit par la société dans laquelle je vis, où il y a des tabous, il y a ceci, il y a cela. Oui, mais les tabous entre toi et ton père et ta mère, c'est pas lui qui va te le raconter, mais le voisin va le raconter, la voisine va le raconter. Et puis comme ça, en fait, la société autour, elle vit avec tout ça. Donc tu vois par exemple, quand tu es d'origine immigrée, quand tu es dans un pays étranger, tes références de ton pays d'origine, c'est ton père et ta mère. Mais quand tu es dans une société où il y a beaucoup de tabous, tu ne vas pas avoir toutes les informations. Et de beaucoup de choses, tu vas penser que ce n'est pas ceci. Mais en fait, tu te rends compte, je me suis rendu compte que quand j'étais tu vas en Algérie, tu as toutes les informations qui viennent par les autres. Tu vas savoir qu'en fait celui-là il trompe sa femme, tu vas savoir qu'en fait c'est pas le vrai père, tu vas savoir. Et les gens le disent.
Oui.
La maman, le papa le savent, mais ils ne le disent pas. Hmm. Tu vois. Et c'est comme un jour, moi j'ai
ça vient par ailleurs.
Ça vient par ailleurs, tu as des infos. Hmm. Tu vois. Et tu ne sais pas ça. Et tu dis, mais oui, mais non, ton père et ta mère, ils couchent ensemble, ils ont eu des enfants, c'est toi. Et ils ont pris leurs pieds, sinon tu ne serais pas là. Hmm. Tu comprends. Donc nous sommes identiques, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que j'ai pris un plaisir à raconter des contes et des histoires coquines d'Algérie. Parce que c'est, on est les mêmes. Et donc on se relie à travers les contes. Et les contes, évidemment, il y a des colorés. On n'a pas la même problématique. Ça se colore différemment, mais ça parle d'un problème fondamental de l'être humain. L'être humain, l'homme, la femme, va être confronté à ça, à ce choix-là. Et s'il fait ce choix, il va se passer ceci. S'il fait ce choix, il va se passer cela. On a la chance, c'est dit dans les contes. Donc, à toi bien écouter, comprendre, ou bien alors écouter, aller rêver, et le lendemain matin, tu as la réponse. Tout dépend de ce à quoi tu es sensible.
Ouais. Et justement, il y a en ce moment des polémiques autour de est-ce qu'un conte, c'est pas un truc dépassé, ringard, sexiste tu racontes l'histoire d'une fille qui, pour désobéir à ses parents et parce qu'elle ne veut pas se marier avec son frère, a les mains coupées. Tu crois qu'on peut encore raconter ça à des petites filles? Ça ne devrait pas être interdit.
Mais en fait, ce qu'on est en train de raconter là, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est de la magie. Tu comprends, il s'adresse à l'âme, il ne s'adresse pas au monde réel dans lequel on est. Il s'adresse à la problématique de l'Œdipe, à la problématique du fait de vivre proche de ta sœur. Tu peux faire une projection sur le fait que ça peut être ta femme, que ça peut être ta maman. Mais en fait, imaginez que toutes les femmes sont comme ta mère et comme ta sœur, ben tu te gourres, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je parle avec un ami, il était sicilien. Je dis, tiens, t'as pas épousé une sicilienne? Mais non, écoute, je connais ma mère et ma soeur, je vais pas me marier. Mais ça n'a rien à voir. Tu comprends? Il a pas compris que même à 40 ans, que sa mère et sa femme, et sa mère et sa soeur, c'est pas toutes les femmes du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on n'est pas en train de parler d'un truc concret, les filles à la main coupée. Non, on ne parle pas de ça. On s'adresse à l'âme. On s'adresse, c'est à la psyché, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te fait grandir.
Ok, donc tu es en train de dire que tu peux pas, c'est pas avec ton mental un peu concret et analytique que tu comprends ces histoires-là.
Non, il faut pas prendre.
Tu les reçois par ailleurs.
Oui, oui, tu les prends. Faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Tu vois. Faut pas prendre les choses au pied de la lettre. C'est pas un mode d'emploi Ikea pour monter ton armoire, parce qu'en plus même avec un mode d'emploi Ikea pour monter ton armoire, t'as les gens qui montent leur armoire de travers. Tu comprends? Pourtant c'est bien concret. Alors tu penses bien avec un conte.
Oui. Ouais.
Tu vois? Parce que ça ne raconte pas ça. Ça raconte. C'est vraiment à des mille. Et après tu vas me dire que oui, bon, bien sûr, si on parle toujours que de princes charmants qui font les grandes aventures et les filles restent à la maison, mais c'est pas vrai, hein. Moi j'ai des contes kabyles où tu as une jeune fille qui veut pas se marier, elle se bagarre avec son mari, et puis elle s'en va, il dit de rester, elle s'en va, et pendant la nuit elle est poursuivie par l'ogresse, par un lion, elle finit par les tuer, et tout le monde avait peur de l'ogresse et du lion, les hommes étaient là, et c'est elle qui l'a tué, et c'est un conte traditionnel, tout le monde est bien content. Tu vois, donc ça veut dire que tu dois savoir ce que tu... Toi, en tant que conteur et conteuse, tu éclaires un champ des possibles. Ouais. Il y a plein de contes, mais c'est pas parce que Walt Disney, lui, il a voulu faire du fric en racontant Blanche-Neige à sa version à lui, parce qu'il voulait se faire du pognon, que c'est sa version à lui qui compte. On sait très bien, nous, les conteurs, les conteuses, qu'il y a d'autres versions, et à nous, à les mettre en valeur. Tu vois ce que je veux dire?
Là, tu parles vraiment de la responsabilité du conteur qui choisit où est-ce qu'il place sa parole.
Ben oui, évidemment.
Tu parlais de location de cerveau. Tu loues pas ton cerveau à n'importe quoi et à n'importe qui.
Oui, dans le choix, dans ce qu'on fait,
tu
oui.
Tu loues pas ta parole.
Non. Non, il faut oser raconter ces histoires qui peuvent paraître étranges, bizarres, horribles. Et puis après, par exemple, moi j'ai une histoire l'histoire de Fizili, qui est une petite fille qui va nourrir son grand-père, qui habite dans la forêt. Ça ressemble à l'histoire du petit chaperon rouge, mais quand j'ai des enfants et quand j'ai des adultes qui m'écoutent, je raconte pas de la même façon. C'est la même histoire, mais elle est différente par l'énergie que j'y mets, parce que je vais pas leur raconter de la même façon, tu vois. Et puis tu peux avoir des enfants qui ont besoin que tu leur racontes un peu plus dur, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'avoir un... pour différentes raisons, mais ça tu le sens, oui. Si tu es intuitif. Mmh. Moi je suis quelqu'un d'intuitif, avec un type pensé, je suis capable ou je m'imagine être capable de pouvoir sentir ce qui se passe autour de moi.
Oui.
Tu vois.
Tu dirais que l'art du conteur, c'est aussi en effet un art de la relation.
Écoute, compteur, contact, si tu n'as pas de contact avec ton public, ça ne sert absolument à rien. Tu vois, c'est vraiment la base, même la première chose, si tu es sur scène, qu'un public voit quand tu montes sur scène, c'est ton corps. Il te voit arriver, c'est ton rythme. Après, ça va être ce que tu vas dire, ce que tu vas jouer comme instrument, ce que tu vas poser. Tout ça, c'est ça qui va faire qu'on rentre avec toi ou qu'on ne rentre pas avec toi. J'ai pas la vérité, hein, donc tu peux faire vraiment une formidable soirée en faisant tout à fait le contraire de ce que je t'ai dit, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de rentrer en relation. Tu peux être rentré en relation après, parce qu'au bar, tu es en train de prendre un verre et les gens vont être là. D'ailleurs, quand tu vas parfois voir un spectacle d'une star qui est connue, les gens l'ont entendu et puis ils rigolent tous à ta première phrase, et les autres qui ne connaissent pas, qui viennent, ils rigolent pas, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'est pas venu te chercher. En plus, il a des difficultés à venir te chercher parce que tout le monde rigole. Alors qu'il faut, c'est important. Le contact, il est hyper important. Et ça, c'est comment tu vas trouver. Ça, c'est ton talent. Comment tu vas faire? Les techniques que tu vas utiliser. Alors, les gens qui n'aiment pas les techniques, la façon de faire dont tu vas utiliser, la façon dont tu vas être inspiré. Mais tu as une responsabilité à ce que les gens qui viennent là pour t'entendre, ils ne s'ennuient pas. Tu comprends? Ils peuvent s'endormir. C'est un souci. Tu vois? Mais pas qu'ils s'emmerdent. Ouais. Tu vois? J'ai passé un bon moment, je me suis reposé. Tu vois? Parce que, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui mène moi. Mais je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Je n'ai pas la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité.
Qu'est-ce que, si tu devais dire quelque chose à des jeunes conteurs ou les gens qui ont envie de démarrer dans ce métier, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Tu veux dire quelqu'un qui voudrait me demander un conseil, comment il faut raconter, tout ça? Il faut, ce que j'ai dit, il faut rentrer en contact d'abord avec soi-même. D'abord, c'est la première chose.
Ouais.
Hein, toi-même, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas qui tu es, cherche, hein, c'est pas un souci. Questionne-toi déjà. Après, il faut rentrer en contact avec il faut aller voir beaucoup de conteurs et de conteuses.
Ouais.
Ça, c'est hyper important. De toute façon, dans quoi que tu fasses, il faut aller voir ce dans quoi tu vas t'engager. Si tu veux construire une maison, faire des spaghettis, ouvrir un restaurant, il faut aller voir un peu tout ça. Il faut vraiment faire ce boulot-là. Et puis, rester ouvert, se remettre en question, mais aussi en même temps, avoir du courage et avoir de la certitude. C'est ça le paradoxe. C'est que tu dois en même temps être sûr de toi, mais tu dois quand même laisser la lumière passer pour le doute. Parce qu'en fait, sinon, tu vas te retrouver à raconter des histoires. Tu connais très bien, mais il n'y aura plus d'humanité. Un jour, j'ai programmé un magicien. Jeune magicien qui n'avait jamais été au public. Il s'est trompé un petit peu dans ses tours, mais il y avait de l'humanité dedans. Et passé après en dernier lieu, le magicien qui avait toute l'expérience. Il a fait un carton, mais il y avait moins d'humanité. Ouais. Le plus intéressant, c'était le premier.
Ouais.
Tu vois. Donc nous, en tant que conteurs, conteuses, il ne faut jamais qu'on oublie. Attention, le piège, il est là. C'est qu'on va aller sans rentrer en contact. Et il faut rentrer en contact avec toi-même, avec le public et avec l'histoire que tu racontes. Lis-la le soir avant d'aller dormir et puis... Et puis relis-la, et puis raconte-toi la nuit, si tu ne sais pas dormir, raconte cette histoire-là, et elle va naître en toi. Voilà ce que je dirais, mais je sais qu'on est tous différents. Tu peux être quelqu'un de sensation, quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un d'intuition, quelqu'un de plutôt dans le pragmatique, donc c'est pour ça que c'est important de se comprendre. Voilà ce que je dirais. Et de vivre l'aventure des contes, et d'aller dans la magie, c'est bien, c'est encore possible.
Merci Faem.
Merci à toi.
Send my body home, not alone. Let me live a second life in a children's paradise. Save my flesh and bones on a boat. Wind and winter follow by, as tomorrow never dies. You're the best of worst of friends, praise the sea, it never ends. You're the sea and I'm the sky, we together lullaby. Send my body home, not alone. Let me live a second life in a children's children's paradise. Save my flesh and bones on a boat. Wind and winter follow by, as tomorrow never dies. You're no good and I'm too soon. You need food for your typhoon. When I'll be too old for thee, I'll be free under your tree. Send my body home, not alone. Let me live a second life in a children's paradise. Save my flesh and bones on a boat. Wind and winter follow by, as tomorrow never dies. My body home, not alone. Let me live a second life in a children's paradise. Save my flesh and bones on a boat. Wind and winter follow by, as tomorrow never dies.
C'est pas pour dire, on continue notre tour en Belgique et Engel rencontre maintenant Bernadette Heinrich.
Bonjour.
Bien. Bonjour.
Bernadette. Bernadette, comment on prononce ton nom?
On prononce Heinrich.
Heinrich.
Mais c'est d'origine alsacienne, en fait.
D'accord.
Et mon père est venu, enfin mon grand-père, arrière-grand-père, au moment de l'occupation de l'Alsace, donc ils ont immigré vers la Belgique.
Ouais.
Et voilà l'origine du nom.
Ok, donc tu es conteuse.
Oui.
Voilà, on vient de se rencontrer au festival, première édition du festival Origine.
Mm-hmm.
Et on est là dans un drôle d'endroit. Hein.
Oui, c'est vraiment magnifique. C'est un musée de la marionnette.
Ouais.
Et donc on voit des personnages de toutes sortes habillés avec des costumes.
Ouais. Donc tu racontes des histoires. Depuis combien de temps tu fais ça?
Je dirais que depuis quand même 17-18 ans comme ça. Je suis devenue petit à petit professionnelle en tant que conteuse.
Ouais.
Et donc au départ j'avais travaillé plus dans l'associatif, le social. Et puis à un certain moment donné, je ne me retrouvais pas en fait.
Ouais.
Donc j'étais un peu militante aussi, droits des femmes et tout. Mais je me dis qui je suis pour défendre les droits des femmes et pour vouloir... oui, c'est ça. Et changer la société. Donc j'ai eu besoin peut-être de faire un chemin vers l'intérieur, en fait.
Mmh, c'est tu vois? Comme ça que tu décris ça.
Ouais, c'est comme ça que... Ouais.
C'est joli, ça. Donc tu as fait un chemin vers l'intérieur.
Mmh.
Et ce chemin vers l'intérieur, ça t'a mené vers les histoires?
Oui, c'est ça. En fait, j'avais l'impression aussi d'avoir, on pourrait dire, une langue de bois, quoi. Tu vois, je défendais des droits, mais avec peut-être pas les émotions ou de manière un peu froide aussi, mais avec conviction, mais un peu, ça restait un peu... pourrait dire rationnel. Donc ce voyage vers l'intérieur m'a permis d'avoir les couleurs des émotions et de voir aussi qu'est-ce que vraiment j'avais envie de dire aussi.
Et pourquoi le conte?
Oui, c'est vrai.
Il y a plein de manières de faire des voyages vers l'intérieur. Tu aurais pu devenir bonne sœur, je ne sais pas.
Ah oui, ben le hasard a fait que... Oui, je regardais les annonces de journaux et j'ai vu Trouver le comédien en soi.
Ouais.
Ah. Et c'était un stage.
Donc t'as plongé.
Oui, c'est ça.
T'as alors, trouvé un comédien dit... en toi.
Et alors là, c'était à Montpellier. Mmh. Et donc, on n'était que 4-5. C'était la première fois que je contactais l'art aussi. Parce que voilà, dans ma famille, dans le milieu où j'étais, on n'était pas nécessairement ouvert à tout ce qui était artistique. Ouais. Donc là, j'ai contacté. Il y avait 3 comédiens et une conteuse. Mmh. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le conte et que ouais, j'aimais beaucoup parce que en tant que conteuse, on n'est pas là pour interpréter, tu vois, un texte de quelqu'un d'autre, mais on a à créer notre propre univers, nos propres histoires, nos propres textes aussi. Et donc, c'est comme ça que ça m'a parlé.
Et alors, est-ce que sur ce chemin-là, depuis 18 ans, est-ce qu'il y a des types d'histoires qui t'attirent plus, t'as remarqué ? Qu'est-ce que c'est, quoi, ton répertoire privilégié, disons ?
Oui, ben, j'aime bien les histoires un peu absurdes et un peu un univers un peu étrange, un peu style, un peu Magritte, enfin le surnaturel un peu de la Belgique. Donc oui, c'est ce type d'histoire qui m'attire. Et par exemple, j'ai une histoire de Jack le Givré, c'est l'histoire d'un squelette voilà, qui arrive plein d'aventures. Et donc ça, c'est dans un spectacle qui s'appelle « Il y a un os ». Et donc c'est aussi voilà, rencontrer un peu des obstacles ou des questionnements aussi. Et le dernier spectacle que j'ai fait, c'est « Les oreilles du silence ». Mais ça, c'est plus... je suis repartie un petit peu d'un récit, peut-être plus personnel, où justement, même si je suis devenue conteuse, quand j'étais enfant, je parlais très peu. Donc j'étais très silencieuse, j'écoutais beaucoup. Et donc le silence m'a toujours attirée. Donc j'ai fait ce spectacle sur le silence, mon propre silence. Et je me suis aussi intéressée à qu'est-ce qui fait aussi que dans les familles, parfois, il y a des tabous, ou dans la société aussi, il y a des silences. Donc, je dirais que les questions que j'aborde dans les spectacles ou dans les contes, c'est toujours des choses qui m'ont touchée et dont j'ai envie d'explorer, finalement, sans savoir au départ où ça va me mener, quoi.
C'est beau, ça, pour une conteuse, de parler de silence.
Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Mais je pense que les histoires se confectionnent quand même en partie, quand même dans le silence, en tout cas en connexion avec soi. Et puis, c'est vrai que parfois, on a peur du silence. C'est plus une peur, parce que c'est comme si on doit remplir toujours le vide un peu partout, même avec la consommation et tout ça. Et donc, oui, c'est oser, bon, ça n'est pas venu tout de suite dans mon parcours, c'est oser aussi ne rien dire, mais être présent aussi aux choses et au public. Ne pas être tout de suite efficace ou productif, parce que c'est pas ça l'art. Pour moi, l'art, c'est l'inutile aussi. C'est pouvoir dire on n'est pas dans un chemin, tu vois, scolaire où on doit arriver à un résultat bien fabriqué. Et donc, oui, se donner le temps de voir ce qui émerge et si ça plaît pas, si c'est pas totalement dans la mode ou si ça plaît pas, tant pis, quoi. C'est aussi faire ce chemin-là, quoi. Et pour ça, je crois que ça demande du temps, quoi. Souvent.
Près de l'au-delà. Près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres, le vent qui battent le temps d'une mesure. Et au fur et à mesure que les chants avancent, la faune et la flore et les métaphores entrent en transcendance, en transe. Oh.
est Dieu, Dieu du feu, Dieu de toutes les fibres. Il est beau le bruit du bois, il est beau le bois. Il est beau, 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 il est beau le bruit du bois. Il est beau le bois duquel je viens, et je viens vous dire que j'ai rien à dire, mais que l'on respire mieux là-bas sur le haut plateau, près de l'eau de la fontaine qui insuffle la vie près du zéphyr, celui qui inspire à la transformation. La transformation. Dieu des dieux, Dieu du feu, Dieu de tous les chaînons. Je ne mangerai pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta pomme, pas ta. Non, je ne mangerai pas ta pomme. Non, je ne mangerai pas de ta nourriture. Nourriture d'une terre dont la sève est sûre et le fruit amer d'une culture forcée par la main de l'homme qui en dépit des dieux. Ceux qui avec nous sont prêts à tout pourvu qu'on leur laisse la transformation. La transformation.
C'est pas pour dire avec Angèle Goduchaud, nous continuons la balade dans le festival Origine, en Belgique. Dans ce festival de contes, il y eut des dizaines d'autres rencontres, dont la passionnante Geneviève Wandelski, ou bien Ria Carbonez. Mais le format de cette émission ne nous permet pas aujourd'hui de donner voix à toutes et tous, et voilà que nous en sommes bien frustrés. Ce sera pour une autre fois, promis, juré. En attendant, avec la conteuse Bernadette Heinrich, nous parlons aussi de la Fédération des conteurs et conteuses belges que les artistes français jalousent.
Alors, il existe en Belgique un truc que nous autres conteuses et conteurs français vous envions, en tout cas moi, c'est quand même la Fédé. C'est quoi ?
Donc, la Fédération des conteurs, conteuses de Belgique, mais on est surtout dans la partie francophone de Belgique. Et donc là, c'est en fait l'idée, d'une part, d'avoir un lieu de rencontre entre conteurs qui pratiquent le même art, et ça permet, en tout cas, de se soutenir, d'échanger. Mais aussi, on a voulu faire tout un travail par rapport aux politiques, parce que au niveau du ministère de la Culture, on voit surtout les arts un peu qui sont là depuis un certain nombre d'années, le théâtre, la danse, la musique.
C'est pas quand même comme si le conte était une discipline nouvelle.
Oui, c'est ça. En fait, le conte existe depuis... c'est une des premières arts du monde. Mais par contre, au niveau... peut-être c'est vrai que d'en faire un métier, donc ça, on pourrait dire que... c'est relativement nouveau. Hein. Il y a eu peut-être les AED, puis il y a eu toute une série de métiers autour de conteurs. Mais je dirais en faire vraiment un métier, peut-être c'est il y a 40 ans, 50 ans. Enfin, aussi quand les artistes sont devenus aussi professionnels, quoi. C'est peut-être lié à ça aussi. Mais donc au niveau politique, c'était pas un art qui était reconnu au même titre que les autres. Et on nous disait toujours, mais c'est de la littérature, c'est du théâtre, pourquoi vous n'allez pas dans ces disciplines-là? Et donc, c'était tout un travail de convaincre le politique qu'on était un art quand même spécifique. Et donc, depuis... donc maintenant, en 2016...
Toi, tu as contribué à créer cette fédération?
Oui, on était 20-25... au départ, et puis donc moi j'étais tout de suite prise en fait dans ce mouvement, et puis j'ai assuré aussi la présidence du mouvement pendant 6-7 ans, et donc c'est vraiment un mouvement qui maintenant est vraiment... Il n'y a plus de présidence, mais on est vraiment un collectif qui portons la fédération.
Et ça donne des résultats.
Oui, oui, parce qu'en 2016, donc, la ministre de la Culture a reconnu l'art du conte, au même titre que le théâtre, que la danse, que les arts de la rue. Et donc, le résultat, c'est que aussi, on est dans des commissions d'avis et qu'on a une commission pour le conte. Ça veut dire que si... Quand les conteurs rentrent un dossier, par exemple, de demande de subvention, pour exemple le festival ici, Festival Origine, ou pour une création, ben c'est une commission où il y a majorité de conteurs. Ce qui est bien, c'est que dans cette commission, il n'y a pas que des conteurs. Comme ça, on ne s'enferme pas non plus dans son propre art, mais on peut au moins défendre un peu le critère... Qui sont importants pour les conteurs.
Est-ce que tu as remarqué que ça a changé quelque chose, y compris dans le travail des conteurs? Je dis ça parce que nous, en France, donc de l'autre côté de la frontière, ça n'existe pas encore, ça. Et donc, du coup, si on veut rentrer, si on veut faire des dossiers de demande de subvention pour des spectacles et tout ça, on sent bien, c'est pas dit, mais on sent bien qu'on a vraiment intérêt à se rapprocher le plus possible du théâtre, à avoir les mêmes types de fonctionnement, de production, à éventuellement avoir des éléments de décor plus qu'on en aurait normalement, à avoir plus de... Enfin, à adopter des codes qui sont pas forcément les nôtres. Pour rentrer dans les critères. Est-ce que tu as l'impression que, du coup, ça a permis aux conteurs de davantage s'asseoir dans leur forme particulière?
Oui, ça a quand même changé beaucoup de choses parce que, aussi, je dirais que à partir du moment où on a une subvention... on a la possibilité d'avoir aussi du temps rémunéré pour travailler. Donc, je dirais que chacun a continué à avoir sa forme particulière. Il y en a qui sont plus scéniques, il y en a d'autres moins. Mais au moins, les conteurs, on a senti quand même une progression en termes de qualité aussi de ce qu'on pouvait faire, parce que au niveau de l'écriture, au niveau du travail de scène, ben on pouvait faire appel parfois à un œil extérieur qu'on payait, ou certains font appel à un musicien parce que c'est une manière de faire vivre leurs paroles, quoi. C'est une envie. Donc c'est vrai que c'est ça qui a beaucoup changé, quoi, une qualité du travail des conteurs. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu entre le théâtre est toujours proche quand même du conte une fois qu'on va sur scène, quoi. Mais on défend le fait que on n'est pas des comédiens.
Donc vous avez vous organisez des manifestations.
Oui, aussi, alors avec la Fédération des conteurs, on s'est dit que ce qui était important, c'est de visibiliser l'art du conte, parce que c'est encore fort connu comme conte pour les enfants, ou c'est pas assez connu non plus dans la population. Parce qu'aussi, il y avait beaucoup de conteurs amateurs, et donc il y a des conteurs amateurs qui sont géniaux, mais il y en a d'autres aussi qui sont pas terribles, et donc parfois ça a brouillé un peu l'image du conte. Donc c'est vrai que on a envie de faire connaître les conteurs professionnels, quoi.
Donc l'idée, c'était de rendre visible.
Oui, c'est ça.
Ce travail.
Ouais. Et alors, en fait, c'est ça qu'on fait chaque année, plus ou moins, le festival qui s'appelle Chimère. Et là, c'est un festival où, comme on est 55, tout le monde ne sait pas être là
chaque fois,
mais une fois sur deux, on peut présenter quelque chose. Et ce qu'on voulait aussi, c'était sortir un peu des journées professionnelles où il y a une sélection, mais une sélection qui n'est pas toujours juste, parce que, c'est logique, on fait une journée professionnelle pour que c'est une cohérence, mais parfois, il y en a qui sont un peu oubliés ça. Donc, en fait, les 22, 25 sont présents à Chimère pendant une semaine, et donc on tente d'avoir des programmateurs et de montrer un peu de travail, quoi.
Qu'est-ce qui fait, à ton avis, parce que quand même on est au 21e siècle, il y a des écrans, des images virtuelles, et on a une technologie d'enfer, qu'est-ce qui fait qu'il existe encore des conteurs, des conteuses, et qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de se rassembler pour écouter des histoires.
Et ouais, c'est assez étonnant, mais on voit qu'il y a quand même une recherche de convivialité quand même au niveau peut-être de la population, des gens. Parfois, ils viennent et ils ne savent pas très bien aussi à quoi s'attendre. Hein. Ouais. Comme aujourd'hui, dans la balade comptée, on a demandé est-ce qu'il y a déjà... Il y en a qui ne connaissent pas la balade comptée. Ben oui, il y en avait plusieurs qui ne connaissent pas. Parfois, le concept balade comptée, ben, c'est en tout cas quelque chose qui plaît parce qu'il y a le côté aussi de découvrir un lieu, un village, un parc, et puis de faire résonner les histoires là-dedans. Donc, ça peut être une porte d'entrée aussi pour l'art du conte. Et les soirées, ben, les soirées, on pourrait dire que parfois, quand on va au théâtre, on doit encore se sentir un peu endimanché, ou on est un tout petit peu plus rigide, ou ça, l'image encore, le théâtre encore l'image un petit peu élite. Peut-être que les soirées comptent, ben, comme ça se passe à proximité, souvent, on se sent peut-être plus dans une intimité, dans quelque chose de proche.
C'est curieux, ça, quand on va au théâtre, on va voir des gens qui jouent, et puis quelquefois, on retrouve les acteurs au bar après, ou quoi. Mais il y a, c'est vrai, comme une espèce de distance. Donc, on dit à l'acteur ou à l'actrice comme c'était bien, ce qu'il a fait, tout ça, mais ça arrive jamais. Comme ça nous arrive à nous, conteurs, qu'après un spectacle, les gens parlent beaucoup, racontent eux-mêmes des histoires, enfin, leurs histoires.
Et c'est vrai qu'on pourrait dire qu'au théâtre, il reste quand même une distance entre le public et la scène. Et pourquoi pas, c'est une autre forme, quoi. Mais c'est vrai que le conteur est tout de suite en interaction plus forte quand même, même si ils ne demandent pas nécessairement au public d'interagir, ça dépend des conteurs, mais il y a quand même, il est vraiment à l'écoute des gens qui sont là.
Vous avez réussi, vous, à faire une définition de ce que c'est qu'un l'art du conteur?
Grande question. Parce qu'on peut même pas dire que c'est... Certains disent l'art de la parole, à la fois, oui, mais il y a le silence dont on parlait tantôt. Et donc, oui, c'est... En tout cas, je dirais... ce que j'aime bien chez les conteurs, conteuses, c'est que vraiment chacun a sa manière d'être et sa manière de raconter. Donc, l'art du conte, c'est aussi trouver qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de dire et mettre une forme à cette parole, quoi. Donc, je dirais que le conteur est un auteur aussi, un auteur de sa propre parole.
Tu veux dire, y compris quand il raconte des contes qui ont 5000 ans.
Oui. Il retraduit toujours avec ses mots, avec ce qui se passe dans le contexte concret où il raconte. Donc il est un inventeur quelque part. Donc je dirais que oui, c'est un auteur qui est engagé parce que il s'engage dans sa parole en fait. Oui, c'est lui qui est là. On dit parfois que le conteur il est assez nu parce que c'est vrai qu'il n'a pas de troisième mur. Parfois il entend des réactions. Ben il a pas pourrait dire un costume ou un personnage qui le protège ou une armure, mais il est là en présence avec les gens, quoi.
C'est pas pour dire, mais j'ai la lourde responsabilité d'interrompre là cet entretien. Je ne peux que vous inciter à venir découvrir la grande diversité des manifestations et des artistes belges sur les questions militantes et féministes notamment. Les conteuses belges ont beaucoup réfléchi.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produit et réalisé par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présenté par Charles Cécile.
Si cette émission sur la pointe des cornes d'un taureau vous a plu, vous pouvez la réécouter, elle et toutes ses petites sœurs, sur le site www.c'estpaspourdire. Et si vous avez envie de nous suggérer un sujet d'émission ou de nous faire part de vos remarques, faites-le sur la page Facebook de l'émission. En attendant, je vous dis ciao.
A dream.